Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce 8e balado liquide, le premier de l'année 2023. Salut Robert.
Salut Louis-Jacques.
Ça va bien?
En pleine forme.
En pleine forme. Je profite de ce balado, même si on est rendu le 2 février, jour de la marmotte aujourd'hui, jour de l'enregistrement, pour te souhaiter une bonne année et une bonne année aux anciens membres. Et on a aussi des nouveaux membres qui joignent.
Oui, c'est vrai, on a plusieurs nouveaux membres qui se joignent pour ce premier balado.
Ouais, 16 ou 17, si je ne m'abuse. Puis, qu'est-ce qu'on souhaite en 2023?
Pas trop de mouvance, une petite année tranquille, ce serait agréable.
Une année tranquille, c'est bon ça, j'aime ça. Une année tranquille, tranquillité d'esprit.
Ouais.
Et aussi, j'en profite également, on a eu un petit problème référencement web avant Noël. Certaines personnes me disent « Ah, je veux référer des nouveaux membres », mais ça semblait en rupture de stock. Là, tout a été mis à jour sur le site Internet. Donc, on est un petit peu plus de près de 90 membres et on pourrait se permettre de monter à 140, donc ce qui serait le nombre final de bateaux de croisière. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez référer des gens si vous voulez qui se joignent à nous. Alors, on commence sans plus tarder avec cette super sélection, 6-20, assez diversifiée. Belle sélection hivernale pour certains et pour d'autres qui vont venir naître du soleil dans votre cœur d'hiver. Donc, je commence avec moi, hein, je pense.
Oui, c'est toi qui débute avec le
Donc, deux vins italiens aujourd'hui au menu. On commence dans le Piémont avec un Langhe. Donc, Langhe qui est cette appellation d'origine contrôlée piémontaise hors des grandes appellations telles que Barolo, Barbaresco, lorsqu'on met des cépages d'avant qui ne sont pas le Nebbiolo. Donc, appellation pas fourre-tout, là, mais c'est Langhe avec mention de cépage. Et dans ce qui nous concerne, ici, on est sur Pasquale Pellicero, la Langhe Favorita et la cuvée Emmanuel. Robert, est-ce que tu as déjà bu souvent du Favorita dans ta longue carrière?
Non, c'est pas un cépage qui avait la cote dans ma jeunesse.
Mais même en général, c'est un cépage qui a la cote, mais plus localement, on va y voir plus en détail. Donc, c'est un domaine familial qui est basé sur la commune de Nève, donc commune de Nève qui est du côté de Barbaresco. Donc, comme j'expliquais, l'appellation Langhe peut soit, on se retrouve soit sur les ans d'appellation Barolo ou Barbaresco. C'est dirigé par Ornella Pellicero, qui représente la quatrième génération de vignerons. Et par contre, bien que c'est écrit Pasquale Pellicero, Pasquale fait référence au papa de Ornella qui a fondé le domaine. Donc, ça arrive souvent lorsqu'on se promène sur les sites web de vignerons en Italie qu'on va citer la tradition de la vigne dans la famille qui perdure depuis plusieurs générations, mais soit on va dire, et là ça vient mélangeant, le domaine existe seulement depuis une ou deux générations. Il faut savoir qu'avant la première, avant la Deuxième Guerre mondiale, une bonne partie des vignobles italiens en général envoyaient leur production en cave coopérative et c'est après la Deuxième Guerre mondiale que la plupart des domaines indépendants massivement se sont fondés. Je suis en train de dire que il n'y avait pas de domaine privé avant ça, là, mais c'est surtout comme ça. Et même chose, par contre, du côté de la Toscane, des Marches et des Abruzzes, il y avait le système de Mezzadria à l'époque, donc le sharecropping en français qui se dit métayage. Donc, où on avait un bourgeois qui possédait plusieurs terres, petits producteurs indépendants, pas indépendants, mais sur cette terre-là qui partageaient la production. Donc, vignerons de quatrième génération, mais le domaine existe seulement depuis le tournant des années 70. Donc, 100% Favorita, le cépage, je vais revenir un peu plus en détail après. Pressurage direct, pas de bois, pas de fermentation malolactique. La fermentation malolactique, on l'a abordé dans d'autres balados. Donc, pour préserver vraiment une belle fraîcheur. Et la Favorita est de ces cépages dans le vaste milieu du vin qui reste encore mystérieux pour moi, puis c'est même pour toi qui as beaucoup plus d'expérience que moi là, dans le vin. C'est une variété que je catégorise d'anecdotique parce que, tu sais, moi, de ma jeune carrière, je pense que si j'en ai bu trois variétés, trois cuvées différentes, c'est bon. Là, tu sais, je veux dire, j'ai pas.
Même là-bas,
j'ai bu une cuvée de Favorita.
Ça fait très Vermentino, je trouve.
Oui, effectivement.
Ça fait vraiment les notes acidulées, un petit peu vert, lime. C'est un très beau début, un très bon vin de début.
Mm-hmm. Et pour vous donner une idée, j'ai fait mes recherches SAQ.com. Il y a une Favorita disponible. Et selon la littérature, c'est un cépage qui va donner beaucoup de fraîcheur, donc un côté assez tranchant, avec un bouquet assez délicat, surtout porté sur le floral. C'est pas un vin qui est très, très fruité là, en général. Et au-delà de ses attributs organoleptiques, l'origine du nom de ce cépage vient du fait que dans le Piémont, c'est celui qui a gagné le cœur et le choix favori des vignerons parmi les cépages blancs plantés de la région.
Voilà.
Parce que c'est sûr que c'est pas avec du Moscato d'Asti qu'on va gagner le cœur de tout le monde là, à grande lampée. Là. Donc, super beau vin blanc d'apéro, ça. C'est pas un vin qu'on a besoin d'intellectualiser trop, mais par contre, très bon parce que très différent dans l'approche.
En fait, ça nous fait vraiment en vouloir plus avec des petits canapés, justement, des fromages, peut-être pas des viandes froides, mais des corps gras en canapé, ça pourrait être vraiment intéressant.
Je fais un clin d'œil à ma famille. Il y a quelqu'un dans ma famille qui fait souvent des petits sablés au cheddar. Ouais. J'ai pas la recette. Je l'ai jamais faite, mais je verrais manger ça avec ça, puis ça serait... super bon. Écoute. Pensez à une pâte brisée au cheddar. Qu'est-ce qu'il y a?
Ben, c'est parce que j'ai aucune idée, c'est quoi des sablés?
Ben, c'est comme un biscuit sablé,
okay.
Mais il est parfumé au fromage cheddar fort. Et honnêtement, avec ça...
Ben oui, je pense que oui. C'est intéressant.
Super bon. Les deux prochains vins, Robert, c'est toi qui nous en parles.
Oui.
On commence en Bourgogne.
Deux blancs de France. Donc, le premier qui est un Bourgogne, l'appellation Mâcon Village, nos cinq terroirs 2021 de la famille Paquet. Le Mâconnais, en fait, pour ceux qui n'ont pas fait les ateliers Bourgogne des Cavisses, c'est l'appellation la plus au sud de la Bourgogne, celle qui est bordée par le Beaujolais, et au nord, vous avez la côte chalonnaise. C'est une appellation qui a quand même des bons référents au niveau de ce que les gens connaissent, les Viry-Clessé, les Pouilly-Vincennes, les Pouilly-Fuissé, les Saint-Véran. Les Mâcons général, les Mâcons village. Donc, c'est une appellation qui en donne beaucoup au niveau du rapport qualité-prix. C'est encore une des appellations abordables de la Bourgogne, majoritairement en blanc. Je pense que c'est 80-quelques% qui est en blanc de cette appellation. Et c'est une de ces appellations aussi qui aura du gamay dans le rouge. Pour ce Mâcon village de Saint-Terroir, c'est le premier millésime en bio de cette famille-là. En fait, la famille, les parents ont ouvert en 80 l'exploitation viticole dans Saint-Véran. Et tranquillement, ils ont racheté quelques parcelles à gauche et à droite. Et les trois fils ont repris l'affaire en 2004, je crois. Et en 2004, donc, on est rendu avec 27 hectares en Pouilly, en Saint-Véran, en Mâconnais. Ils sont en bio, je l'ai mentionné. Et l'année 21, donc, c'était une année assez complexe pour faire de la vendange pour les raisons qu'on connaît. Manque de main-d'œuvre. Il y a aussi, je pense qu'il y a eu des grêles en juin en Bourgogne. Ça a été une année un petit peu complexe. Mais,
il y a eu du gel aussi, je pense, sur l'ensemble de la France. Là. C'est l'année où ça a gelé en Provence.
Oui, puis une rareté de vendangeurs. Donc, c'est, comme je le disais, donc, ces trois frères-là qui vont faire ce vin. C'est un très beau vin. C'est un beau vin du Mâconnais. Puis les vins du Mâconnais, on les oublie. Moi, on ne les oublie pas, en fait, mais on est moins porté vers, c'est moins glamour un peu. C'est un vin qui va avoir une robe très jaune clair, brillante, qui va mettre de l'avant les notes agrumées, qui va avoir une bouche assez ronde. Ça va bien. Moi, je pense que, justement, si on est dans un mode repas, là, celui-là va bien s'accommoder d'une salade. Je crois qu'en atelier, on l'a servi avec une salade de poireaux confits et ça faisait vraiment un très, très beau travail parce que la bouche est assez structurée, est assez puissante et capable de tenir la texture de la chair d'oignon un peu cuite, un peu confite, mais qui va pousser le vin plus loin dans votre bouche, qui va l'amener plus loin parce que ça devient texturé à ce moment-là et l'agrume va juste être projeté vers l'arrière. C'est vraiment très intéressant.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on déguste beaucoup de Bourgogne blanc, tu as tout ce qui est Côte de Beaune, Côte d'Or, là, donc Meursault, Pouligny, Chassagne, Saint-Aubin, qui sont sur des sols argilo-calcaires avec une forte concentration argileuse qui donne des blancs riche. Assez puissants, riches, qui ont de la patine, qui ont de la matière. Et bien que normalement, on dit dans le jargon, plus on descend vers le sud, plus les vins deviennent solaires, plus les vins deviennent gourmands. Par contre, le Mâconnais ayant des sols plus granitiques, on revient sur des chardonnays qui ont plus de tension. Donc, si on prend la Bourgogne blanche, en général, tu as Chablis qui a des acidités dans le tapis et ça irait de soi que ce serait la Côte d'Or qui serait en deuxième, mais en réalité, c'est le Mâcon qui est comme à cheval entre Chablis et... moi, je suis un fan fini d'appellation Saint-Aubin, mais ça reste des vins qui sont assez... qui ont
beaucoup. Oui, assez corpulent, mais assez corpulent, on le dit souvent, c'est le haut et le bas de la Bourgogne qui vont vous donner de la fraîcheur, le centre qui va vous donner de la matière, de la texture. Les deux se valent, ils ont des
approches différentes.
Exactement, puis aussi des prix différents, on va aussi dire. C'est, je pense que dans le cas du Mâconnais,
à 40 et des poussières. Moi, 40 sur, et des poussières.
Dans les mêmes branches, sensiblement, que des chablis d'entrée de gamme, pas des grands chablis, mais c'est intéressant. C'est aussi une appellation qui se permet de produire en bonne quantité. On est dans ce cas-ci à 65 hecto-hectares. Mm-hmm. Donc, c'est des sols assez fertiles ou on les rend fertiles, c'est selon. Donc, deuxième vin, comme je dis, ça ferait bien un début de repas avec une verdure qui aura un corps gras ou pas. Dans le cas du poireau confit qu'on avait essayé, nous, ça fonctionnait très bien, mais ça pourrait être une effilochée de chèvre, ça pourrait être un corps gras qui porterait un peu le vin plus loin dans votre bouche.
Je me permets juste, Laïus, c'est Rousset qui importe ça. Ouais. Et c'est la première fois que ça arrive au Québec. Donc, c'est le premier arrivage en primeur. Et je pense qu'on a pris, pour le club de vin, 90 % de l'arrivage. Donc, c'est quasiment une exclusivité pour vous. Quasiment. D'accord.
Troisième vin, on est en Faugel, le Inti Vermentino Viognier de Malou. En fait, on se demandait si on disait Maslou ou Malou. Moi, je crois que c'est Ma. Mais on est encore là dans le sud de la France. C'est pas une appellation Faugel, ça, c'est une appellation
IGT, Comte de Tongue.
Et la Tongue, c'est un affluent de l'Hérault. Et l'Hérault, donc, c'est vraiment dans le sud de la France. On est je crois qu'on est entre, comment ça s'appelle dans cette ville, Béziers, ouais, c'est ça, et Montpellier. On est vraiment dans une aire d'appellation qui était assez commune, assez portée sur de la cave coop et ou des petits vins de pays. Et dans le cas qui nous concerne, donc on parle d'une appellation qui a une centaine de vignerons avec 10 000 hectares et 5,5 millions de litres produits. Là, j'ai googlé ça pour être sûr, parce que c'est une appellation qui est moins connue et qui a aussi 119 cépages permis.
Oh, ouais.
Ah oui! Avec un rendement potentiel de 90 hecto à l'hectare. Alors, pour ceux qui se demandent, 90 hecto à l'hectare, c'est ça beaucoup, fait beaucoup de vin.
Mais ça, on n'est pas dans ce type de producteur.
Non. Malou, non, c'est vraiment... ce monsieur-là, on est ailleurs, là, une expression un peu plus précise. Et là, l'intérêt, en fait, de ce vin-là, moi, je trouve que ton ordre est parfait, Louis, avec le Vermentino et le Viognier. Le Vermentino qui a besoin d'un climat chaud, le Viognier qu'on connaît plus en altitude dans le Rhône, en fait, dans le nord du Rhône, mais dans les deux cas, ça produit des vins secs avec une bouche qui a une texture, qui a une patine, qui a une petite touche de phénol qui va nous amener de l'amertume, mais en même temps, qui va nous amener des notes mielleuses, de mangue, d'acacia. C'est vraiment des blancs qui sont tout le temps intrigants, qui, je pense que si vous aimez le chardonnay un petit peu nouveau monde, vous allez vous retrouver dans ça. Puis c'est pas un défaut d'aimer le chardonnay nouveau monde, mais...
Si on n'est pas dans la caricature.
Non, pas dans la caricature. Et si vous aimez les sauvignons blancs aussi, vous allez aimer le Vermentino parce qu'il y a des touches agrumées, acidulées, qui vont être vraiment intéressantes. Donc, on a vraiment un vin assez enveloppant, assez parfumé. C'est sec, mais en même temps, c'est patiné.
C'est huileux.
Non, ouais, c'est huileux. Donc, ça, c'est pour cet assemblage-là. Et moi, tu vois, lui vraiment, je pensais en troisième service, je pensais vraiment un Gravlax. Pas nécessairement un Gravlax de saumon. Je pensais un Gravlax de poisson rose.
Une truite.
Ou un peu moins de gras dans le Gravlax, mais vraiment intéressant.
Moi, là, je vois, c'est-tu quoi je vois avec ça? Brunch. Oh
ouais.
Bagel au saumon fumé. Oh
ouais,
avec ça, là, ça serait super bon. Le sésame du bagel.
Ouais.
Tu peux prendre. Mais bagel au saumon fumé, là, c'est un beau vin de brunch. Puis je peux me permettre aussi, là, puisqu'on est en début d'année, on fait certains bilans. J'aime ça faire des fois des bilans vineux. Tu sais, comme qu'est-ce qui les vins qui ont marqué mon année 2022. Là, ce n'est pas les vins, c'est vraiment un domaine, Maslou, Malou. Ouais. C'est tout nouveau, ça a été importé pour la première fois au Québec dans la dernière année. De André Papineau de chez Vinalis. Et ça fait partie de ces vraiment belles découvertes. Puis on est rendu à la quatrième cuvée qu'on rentre au caviste et aux cerises. Là. Puis à chaque fois, je ne suis pas déçu. Puis les rapports qualité prix plaisir sont spectaculaire. Là, le blanc est assez impressionnant, mais les rouges aussi sont sublimes. Et tu sais, c'est comme ça fait partie de la belle découverte. Et on parlait de l'appellation Faugère. qui est grosse et petite à la fois, là, mais qui est moins connue. Mais c'est, tu sais, Faugère et Pic-Saint-Loup, moi, je dis souvent, c'est des appellations qu'on a beaucoup de plaisir à...
C'est des vins de plaisir.
Oui, exact.
Et ça, pour, ça va vous réconcilier, parce qu'il y a quand même un peu de bois. Il y a 6 mois, puis dans le cas du Viognier, je pense que c'est un plus de faire du bois. Ça l'arrondit encore plus, ça le rend plus charnu. Le Vermentino, là, qui va amener justement ce côté un petit peu sec. Non, c'est vraiment un très, très beau produit. On l'avait juste dans le club de vin, ça.
On l'a eu avant Noël pour le Salon des vins aussi.
OK.
Et j'ai tellement aimé ça qu'on l'a reconduit pour le club de vin.
Parfait. On s'en va donc, Louis-Jacques, avec ton oh là, ça va être long, hein, ça, je pense.
Bon. Donc, Cerasuolo d'Abruzzo, du domaine Buccicatino.
Qu'on n'achète pas pour l'étiquette.
Buccicatino, c'est, ben, c'est vraiment l'étiquette c'est très, très traditionnelle dans la tradition vitivinicole. Là, vraiment, c'est le vin de soif par excellence, comme certaines personnes se plaisent à dire dans le Mylan, du petit jus ou du vin glouglou. Robert, avec l'enregistrement de ce balado, j'ai appris des choses et ce qui est fabuleux, c'est que le milieu du vin, on apprend des choses à tous les jours, on pousse notre connaissance tout le temps des notes nouveaux. En Italie, la nomenclature des appellations d'origine contrôlée vont souvent faire référence à une appellation ou un village, par exemple Barolo, mais c'est rare qu'on mette le cépage l'avant. C'est Barolo, puis après ça, il faut creuser, c'est fait avec du Nebbiolo. Par contre, on a souvent aussi certaines appellations qui c'est le cépage de telle région. Exemple, le Montepulciano d'Abruzzo. Barbera d'Alba. Donc, j'ai longtemps amalgamé l'appellation Cerasuolo d'Abruzzo à mon erreur de le Cerasuolo des Abruzzes. Et hier, en préparant le balado, je me suis mis à dire, mais attends une minute, il y a du Cerasuolo d'Abruzzo, mais il y a aussi du Cerasuolo di Vittoria en Sicile également. Puis là, je commençais à faire mes recherches. Puis là, attends une minute, c'est 100% Montepulciano. Je suis un peu confus. Donc, on ne parle pas ici, c'est comme un cas de figure. C'est l'exception qui confirme la règle. Autant le Cerasuolo d'Abruzzo et le Cerasuolo di Vittoria en Sicile. Dans les deux cas, on ne parle pas du cépage de la région, mais on parle plutôt à un exercice de style. Donc, Cerasuolo réfère au nom latin Cerasia, qui veut dire cerise. Et donc, il fait référence à ses attributs, je les mets en guillemets, cerise dans les deux cas des vins. Par contre, tu as déjà bu du Cerasuolo di Vittoria. Tu peux citer, pour les gens là, qui ne connaissent pas, aller à SAQ acheter soit celui de Cosse ou de...
la petite bouteille trapue un peu.
Oui, la bouteille trapue de Cosse, ceux qui font de Ariana Occhipinti. Et aussi, ça ne me vient pas parce que ça m'arrive souvent, j'ai une bonne mémoire, mais quand vient le temps de chercher, ça va me revenir. Au pire, je le mettrai en... Donc, Cerasuolo di Vittoria, c'est Nero d'Avola et Frappato en appellation, okay. Et ça fait référence à cerise, mais dans les deux spectres opposés. Parce que si tu mets le nez là-dedans, ça ne sent pas nécessairement à la cerise. Donc, dans les Abruzzes, ça fait référence à la couleur cerise.
Okay.
Donc, une couleur assez légère, donc légèrement cerisée. Et en Sicile, ça fait référence aux fragrances de cerise qu'on a dans le vin. Parce que si vous ouvrez un Cerasuolo di Vittoria de Sicile, c'est beaucoup plus foncé que ce profil-là.
Là, selon ce dont tu parlais, c'est Gulfi, hein, tu peux-tu?
Exactement, merci
lui,
Robert.
Il fait des vins d'extraction, justement.
Là. Ben, lui, il se spécialise dans le Nero d'Avola. Très, très extrême, mais si vous achetez la cuvée Mundjubel ou. Non, Nero Blege, qui est son Cerasuolo di Vittoria, super fruité, super. On n'est pas vraiment dans les 100% Nero d'Avola, effectivement, que tu as déjà eu en atelier de sud, qui était assez.
Oui, attache.
Mais Gulfi, c'est un maître, ce gars-là. C'est un passionné de terroir qui a vraiment poussé le Nero d'Avola à une autre limite. Mais là, on revient aux Abruzzes. Donc, en ce qui concerne le Cerasuolo d'Abruzzo, on fait référence à la couleur cerise-ish. Et donc, en tout temps, c'est minimum 85% de Montepulciano qui peut être complété avec d'autres cépages qu'on retrouve dans la région. Dans ce cas-ci, on est sur 100% Montepulciano. Et on est sur un producteur vraiment traditionnel, classique, qui a été fondé dans les années 90. Et ce producteur-là a voulu se sortir. Les Abruzzes, c'est comme une région qu'on aime et qu'on n'aime pas. Très bon rapport qualité-prix. Beaucoup de vins entrée de gamme, cheap, pas très intéressant. Et à travers ça, on trouve d'autres vins entrée de gamme, jamais trop dispendieux, mais hyper, hyper qualitatif. On avait, sur un autre arrivage, on avait le Montepulciano d'Abruzzo de Mariana, l'étiquette avec la fille là, qu'on a eu le Trebbiano. Oui. Donc là, c'est le même cépage, mais en ce qui concerne ici, bouc vinifié, totalement différent. Donc, macération pelliculaire très, très courte. Il n'y a pas de bois et c'est vraiment un profil assez fruité. Là, dans ce qui concerne l'enregistrement d'aujourd'hui, on est cordonnier mal chaussé. La température de service n'est pas bonne, mais c'est un vin vraiment que ça allait amener une température de service plus fraîche. Proche. Oui, exact, d'un vin, un vin blanc. Là. Donc, c'est peut-être un 10-12 degrés là, Celsius, là, facile. Et franchement, c'est super bon. C'est un beau vin de déjeuner, surtout à l'heure à laquelle on enregistre ça. Et qu'est-ce qu'on mange avec ça? Il y a quand même beaucoup de manches en bouche.
C'est une bonne question. Je serais tenté de dire un pâté ou une terrine ou quelque chose, mais ça pourrait être mieux que ça.
Charcuterie, même aussi, on pourrait faire un escalope de veau parmesan avec ça, ce serait super bon.
OK, ouais.
Tu sais, pas le poulet, le veau. Le veau qui a un côté un petit peu plus viandeux, là. Mais, ou une escalope de veau avec une sauce aux champignons, ça pourrait être super, super intéressant. Mais c'est un vin qui passe partout, là. Tu sais, je veux dire, ça se boit, c'est super bon. Faites pas vieillir ça, il n'y a pas de potentiel de vieillissement.
Si vous insistez, on va vous faire un atelier cépage chez Serasuolo.
Pas ça.
Juste sur Serasuolo.
Juste sur l'appellation, la mention de Serasuolo. On reste encore avec moi, on s'en va en Autriche. Donc, comme vous commencez à le voir à travers les arrivages subséquents, ben, l'Autriche a une place dans le cœur des sommeliers. Pourquoi? Ben, c'est vraiment, l'Autriche, je pense, c'est ce pays-là qui est un peu moins connu. Quand tu es sommelier, tu veux vraiment créer une identité, tu veux essayer de sortir des sentiers battus, donc tu trouves une région où tu vas dire, ben, je vais amener ça à faire découvrir. Puis là, ben, je pense qu'on est rendu vraiment à l'autre niveau où l'Autriche commence à être un peu plus mainstream, un peu plus découverte, mais il y a encore des super belles choses parce qu'on prend, même si c'est une région qui est de plus en plus connue, c'est pas en français, c'est des cépages qu'on connaît moins, c'est des régions qu'on connaît moins, donc à la SAQ, c'est un peu plus difficile de s'y retrouver, mais on vous l'a prouvé dans les derniers arrivages avec les blancs, surtout. Là, on arrive avec on arrive avec un rouge, donc 100% Zweigelt du domaine Zinniel. Donc, Zweigelt qui est un cépage, c'est pas un vinifera, c'est un croisement. C'est un croisement qui a lieu entre deux Vitis vinifera. Histoire assez intéressante, c'est un croisement entre le Blaufränkisch et le Saint-Laurent, deux cépages qu'on trouve beaucoup en Autriche. Et le croisement a été fait dans les années 20. Et en l'espace de même pas 100 ans, c'est le cépage rouge le plus planté d'Autriche, le Zweigelt, aujourd'hui, au détriment du Blaufränkisch et du Saint-Laurent. Ce qui va distinguer le Zweigelt de ces deux autres comparses, c'est surtout la couleur. C'est un cépage qui va donner des vins tout le temps plus foncés, mais pas nécessairement plus tanniques. Et juste pour que vous reteniez, Blaufränkisch, le bleu français, fait un peu référence au Pinot Noir. Il va souvent être comparé au Pinot Noir, donc qui a été croisé avec le Saint-Laurent dans les années 20 par le docteur Fritz Zweigelt, de son prénom. Et donc, c'est une histoire, il y a beaucoup de gens là, dans la notion de la cancel culture qui se disent « Est-ce qu'on devrait continuer à appeler le cépage Zweigelt? » Je t'entends rire. Pourquoi? Parce que docteur Fritz Zweigelt a créé ce cépage-là dans les années 20 et il était membre du Parti national socialiste des travailleurs allemands. Et il aurait développé le cépage pour rendre l'Autriche indépendante de ses fournitures de vins rouges colorés, au détriment d'importer des cépages d'Italie ou d'autres endroits en Europe. Donc, j'ai appris ça hier, que c'est peut-être un cépage qui a du sang sur les mains. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire qu'au-delà de ça, c'est un cépage qui, des fois, on va bouder un peu les croisements, les hybrides, mais celui-là, il a vraiment su bien s'intégrer. La seule chose que je mettrais en mise en garde, c'est de vérifier le bois qui a été mis dans une cuvée. Parce qu'on a tendance des fois à très broiser les rouges, puis on va tomber souvent dans la caricature en Autriche. Là, dans ce cas-ci, c'est du foudre, il y a du bois neutre, c'est vraiment superbe.
Mais en fait, puis on l'a appris, nous, avec quelques dégustations avec des vignerons de l'Autriche. Carnuntum, en général, vous allez avoir cette jeune génération de vignerons pour nous rencontrer deux, trois jusqu'à maintenant, qui vont trop extraire, trop de mètres de bois, ils vont vraiment. Puis lui, il vient de Carnuntum.
Non, lui, il vient de Burgenland, donc qui est à côté de Carnuntum. Mais effectivement, il y a comme une mouvance moderne.
Il y a un prof d'œnologie dans ce coin-là qui a fait des ravages. Alors, on essaie de pas de rester loin de l'appellation, mais de chercher un peu mieux dans l'appellation. Puis on en a un qui s'en vient. on va importer une maison qui s'appelle Michael Hour, qui est plus dans une facture moderne, mais qui vient de Carnuntum aussi.
Et qui boise moins.
Et là, ici, on n'est pas dans une facture privée boisée.
C'est fermentation sur levure indigène, élevage de un an en foudre. Donc, les foudres, c'est grosses barriques de bois-là qui ne vont pas donner ce côté boisé-là, mais qui vont oxygéner le vin tranquillement. C'est un domaine familial dans le Burgenland. C'est importé par la cuvée. C'est super bien fait. On l'a eu ça aussi sur le salon des vins avant Noël. Et, c'est une cuvée que j'avais...
Je le laisserai respirer un petit peu. Oui. Parce que le Zweigelt, de par ses origines génétiques, là, a vraiment de l'austérité en ouverture. Et puis, va prendre du fruit, va prendre la texture, la patine avec un peu d'air. Là, puis, ne soyez pas gêné de l'ouvrir. Puis même... Moi, je sais qu'on ne carafe pas des vins habituellement en bas d'un certain montant pour des raisons
de vaisselle, tout simplement. Parce qu'en bout de ligne,
ça n'a pas d'importance. Mais ça c'est un petit coup de carafe, ça va l'ouvrir, ça va lui donner un petit côté qu'il n'a pas naturellement de fruits, d'expressif. Puis il est autrichien, hein, il est germanique, donc il faut le dénoiser.
Qu'est-ce qu'on mangerait avec ça? Quand même un côté assez viandeux, sanguin en bouche. Là.
Ce qui vous reste, la tourtière. Moi, j'aurais pris la tourtière.
Oh, la tourtière avec les quatre épices. Ouais. Ça peut être intéressant, effectivement.
C'est peut-être un peu...
Comment?
C'est peut-être un peu tard là, dans le temps de l'année, mais...
Le pâté à la viande?
Ben ouais,
ou pâté, de faire un bouilli?
Moi, un bouilli, ça pourrait faire le travail.
Ouais.
Ouais.
Non?
Non, j'aurais besoin un petit peu juste de gras avec la
pâte. Plus de gras?
Je sais pas. Moi, je dirais un pâté. Pâté à la viande.
Pâté à la viande, ouais. On finit.
De toute façon, c'est moi sans alcool, alors les gens vont avoir 30 jours pour y penser.
Exactement. On finit, on revient en Languedoc?
Ouais.
En Provence.
Tu m'as demandé des régions. Allô, je vais les googler parce que c'est encore là, c'est Bouches-du-Rhône, en fait. Ben, ça, c'est un peu plus connu, en fait. C'est dans la Côte de Provence, en fait, les Bouches-du-Rhône, ils font partie de la Provence. Ils sont dans les Alpes Azur, là. Un regroupement d'IGP du Sud-Est, comme qui en a des plus connus. Là. Il y a les Ardèches, les Vaucluse, les collines rhodaniennes. Tout ça, ce sont des IGP qui sont très qualitatives et qui sont encore là, une fois, encore abordables et qui vont toujours proposer du fruit, de la fraîcheur, puis qui vont vous faire dire « j'aurais dû en prendre 2-3 bouteilles de celle-là » parce que vraiment, c'est toujours agréable. C'est souvent l'apanage de vignerons qui sont moins bien nantis financièrement, qui vont s'établir dans ces régions-là parce que les terres sont moins chères, qui vont souvent avoir pris une expérience à l'externe, soit dans le Rhône, soit en Provence, et qui vont se dire, ben moi, je m'achète un petit vignoble. Puis Raymond Villeneuve, c'est vraiment ça. Il cultive en altitude depuis 25 ans, une trentaine d'hectares en bio, 400 mètres dans les montagnes, c'est assez élevé. S'il est dans une crique vraiment d'argilo-calcaire, fait qu'il peut s'amuser vraiment à jouer avec différents cépages. Il y a une exposition qui est assez particulière, nord-nord-ouest. C'est complètement l'inverse de ce qu'on s'attendrait dans ce coin de pays-là. Puis c'est un climat frais pour la Provence. Donc, c'est vraiment, on le voit dans le verre, un assemblage de Cabernet Sauvignon, Grenache et Saint-Saulve, je pense prédominance de Cabernet 30% Grenache et une dizaine de Saint-Saulve, des vignes de 20 à 30 ans. Ça fait pas de barrique, si je ne m'abuse. Si oui, c'est de la neutre. Là, c'est vraiment pas ça qu'on met de l'avant. C'est le fruit, la fraîcheur, la vivacité. Il dit lui-même qu'il ne fait pas des vins sérieux. Il fait des vins pour des gens qui boivent sérieusement. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est les gens du club de vin, clairement. On est vraiment là.
C'est un beau vin, ça. Ça me fait rappeler un peu Château Révelette qu'on a à la SAQ. Là. Et le Cabernet Sauvignon est présent dans cette Bouches-du-Rhône-là, Provence. Pas pour des raisons modernes. Ça fait longtemps que ça a été implanté c'est venu de Bordeaux, puis ça fait quand même très longtemps, un peu comme les cépages bordelais dans Vénétie. Là. C'est bien établi, c'est pas pour compléter un assemblage, ça a sa raison d'être. Et c'est le fun parce que les Cabernet Sauvignon, je dirais que c'est un cépage qui est adoré du public, mais qui est vraiment tombé dans la caricature dans les 30 dernières années, 20 dernières années, puis je dirais. Puis d'en goûter des variétales, tu sais, qui sont focus sur le côté variétal, ça fait plaisir parce que souvent c'était surboisé, surextrait. Et on a servi en atelier cépage la semaine dernière le Razuriz Cabernet Sauvignon Max Reserva pour 18 $ SOQ. Si vous voulez goûter un bon vieux cab, nouveau monde, qui n'est pas boisé, qui n'est pas sucré, qui est super bien fait. C'était assez impressionnant.
C'est quand même un peu boisé. Là.
Oui, mais le bois, était, le bois était intégré. Intégré. C'est ça. Quand tu mets le premier nez, ça sent la vanille. C'est là que tu dis, ah, c'est comme un complément d'épices qui est rajouté dans le vin.
Et là, c'est intéressant parce qu'il est balancé avec le grenache qui met toujours de l'avant le fruit rouge, les framboises, les cerises, et qui complémente le Cabernet Sauvignon sans nécessairement enlever la structure tannique, sans enlever le côté, la marge que le Cabernet Sauvignon a. On la sent, mais c'est comme arrondi par le grenache, qui est vraiment, vraiment très, très intéressant. À l'origine, j'ai vu l'inverse au niveau de l'encépagement. J'avais la prédominance de grenache, puis je trouvais que c'est un assemblage assez particulier, grenache, cabernet, sauvignon, mais ça fly, là. C'est assez intéressant.
Vraiment, vraiment. Puis il y a un petit 6% de cinceau qui vient vraiment adoucir le tout, là. On est vraiment sur le... Puis cette recette-là est reproduite au Liban aussi.
Mm-hmm.
Tu sais, je veux dire, c'est une recette qui est gagnante, qui est vraiment, là, c'est de la cuisine dans la bouteille. Chaque élément vient compléter les choses, puis c'est bien assemblé. Là, donc, ça, ben, c'est le vin du braisé d'hiver. Là, je veux dire, c'est,
oh oui, tout à fait.
C'est, ou une bonne côte de bœuf, là, ça sera moins que ça.
Très, très, très bon. Alors, je pense qu'on a fait le tour.
Mais on a fait le tour, vins,
de façon assez rapide.
Ben oui.
C'est une résolution qu'on a. c'est juste tombé comme ça. On vous remercie encore de votre intérêt pour le club. On vous rappelle que certains d'entre vous qui n'écoutaient peut-être pas le balado ont beaucoup de bouteilles encore au caviste.
Oui, certaines personnes qui ont du retard.
Ouais, des gens qui ont du retard dans leur consommation d'alcool et ça ne nous dérange pas. C'est bien gardé. On garde ça dans le cellier puis il n'y a pas de stress.
On le fait vieillir.
On le fait vieillir, mais on s'inquiète. On va peut-être vous appeler directement. Mais sinon, on vous remercie beaucoup de votre support. Le prochain arrivage, Louis, c'était en mars.
Fin mars. Troisième semaine de mars, là, après la relâche scolaire. Là, donc,
entre maintenant et là, c'est ça, il y a la Saint-Valentin, évidemment. Il y a Louis-Jacques qui s'en va pendant 2-3 semaines voir si l'Amérique latine est à la même place que la dernière fois.
Amérique du Sud.
C'est vrai, ils ne sont pas tous latins. Et ensuite de ça, la relâche, et puis on revient au retour de la relâche avec...
un autre arrivage qui va être, dans le fond, vous êtes, pour les nouveaux membres, vous êtes avec nous pour un an. Pour les plus vieux membres, ben, votre année va bientôt se compléter. Vous pouvez la renouveler sans problème, il n'y a aucun problème. Et certains membres qui veulent nous dire au revoir, ben, vous nous laisserez savoir. Là, mais on va vous rentrer en communication avec vous, probablement entre l'arrivage 9 et 10, pour voir qu'est-ce que vous voulez faire pour la prochaine année. Donc, bonne soif à tous et j'espère que ce n'est pas trop de monde qui font le mois de février sans alcool.
Moi, je le fais. Merci beaucoup.
Merci,
bonne
bye
fin
bye.
De journée.